VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Abidjan, 17h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. RDC, Kinshasa exhorte aujourd'hui ses partenaires étrangers à faire preuve de coopération positive. Deux jours après que l'Union européenne s'est déclarée préoccupée par les harcèlements des opposants dans le pays. Le gouvernement congolais souhaite que les institutions nationales continuent à recevoir de ses partenaires de la communauté internationale un appui plus utile qui permet au gouvernement d'améliorer les prestations de ses institutions, a déclaré le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement congolais Lambert Mende lors d'une conférence de presse ce jeudi. Le climat politique est très tendu dans le pays alors que chaque jour qui passe rend un peu plus improbable la tenue de l'élection présidentielle censée avoir lieu avant la fin de l'année. Et toujours en RDC, sept leaders politiques des transfuges de la majorité passés à l'opposition au président Joseph Kabila en septembre 2015 sont déterminés à soutenir l'ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga, Moïse Katumbi. Réunis à Lubumbashi, cette plateforme, le G7, insiste pour que la présidentielle ait lieu en 2016 comme le veut la Constitution nationale. Eddy Sango a joint par téléphone l'un des sept leaders en question, Christophe Lutundula.
Le gouverneur Moïse Katumbi ne s'est pas encore déclaré candidat à quelque mandat que ce soit. Pour nous, le jour où il va se déclarer candidat, il peut compter sur le G7. Il n'y a aucune raison objective qu'il puisse faire, qu'il ne puisse pas compter sur nous. Dès lors que nous menons le même combat, que nous avons une identité de vue et une identité des valeurs et des objectifs.
Christophe Lutundula, un des sept leaders de la plateforme G7. Au Burundi, le procureur de la République vient de donner les principales conclusions de la commission d'enquête sur la mort de plus d'une centaine de personnes dans certains quartiers contestataires de l'agglomération de Bujumbura les 11 et 12 décembre 2015. Des détails avec notre correspondant dans la capitale burundaise, Christophe Nkurunziza.
Le 11 décembre 2015, Bujumbura dormit sous les coups d'armes automatiques et d'explosions de grenades après l'attaque de quatre camps militaires dans les provinces de Bujumbura et Bujumbura Oural, selon un rapport que le procureur général de la République vient de rendre public ce jeudi. Ce dernier affirme que des combattants d'un groupe armé non encore identifié se sont alors rendus dans différents quartiers de la mairie de Bujumbura. Les forces de défense et de sécurité, en poursuivant ces combattants en tenue militaire et policière, ont tué 87 personnes, dont 4 militaires, 4 policiers et 70 19 combattants. Le procureur général de la République confirme que ceux qui n'ont pas été identifiés ont été enterrés dans les cimetières de Kanyo Chaimpanda pour des raisons de salubrité. Mais 87 autres assaillants sont aujourd'hui incarcérés dans la prison de Muramvya au centre du Burundi. Cependant, observe le procureur général de la République, 7 combattants ont été retrouvés morts dans des circonstances non encore élucidées. Un dossier répressif a déjà été ouvert. Toutes les allégations faisant état de fosses communes où auraient été enterrées les personnes tuées le 11 décembre 2015, comme l'affirme certaines ONG internationales, ne sont pas fondées, selon toujours le procureur général de la République. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Élection au Bénin, le second tour de la présidentielle opposera, sauf avis contraire du Conseil constitutionnel, Lionel Zinzou, candidat du pouvoir en place et qui incarne la continuité de la politique du président Thomas Boïsaï, à Patrice Talon, candidat indépendant qui incarne la rupture. Mise en perspective avec Ginette Fleura-Dandé, notre correspondante à Cotonou.
Depuis que la Sénat a donné les grandes tendances du scrutin du 6 mars dernier, tous les regards sont tournés vers la Cour constitutionnelle, seule habilitée à donner les résultats officiels en confirmant ou non le second tour entre Lionel Zinsou et Patrice Talon. En attendant, les langues se délirent, la guerre psychologique se fait avec rage sur les réseaux sociaux. Pour certains journalistes politiques, les tendances du premier tour démontrent que le peuple a été déçu par les deux mandats du chef de l'État Thomas Boniyahi.
Ce qui se dessine, c'est que le peuple a rejeté l'alliance républicaine. Ce qui se dessine, c'est que Talon va venir au pouvoir. Parce que même si Adjavon appelle aujourd'hui à voter Zinsou, l'électorat qu'il a loué ne le suivra pas.
Alors nous parlons aussi bien Zinsou que Talon sont tout près du fauteuil présidentiel. Le prochain président, ce sera ou Zinsou ou Patrice Talon. Mais le tout dépend de Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils promettent?
Déjà, Blaï Biotchane est arrivé en quatrième position selon les tendances données par la Sénat, a appelé mercredi ses militants à tirer un trait sur les 10 ans de Gabeji pour parler des deux mandats de Yahi Boni. Pour l'analyste politique Espedi Ologu, à l'étape actuelle des choses, si le second tour entre Patrice Talon et Lionel Zissou se confirmait, l'homme d'affaires a plus de chances de s'en sortir face à un Lionel Zissou défavorisé par le pouvoir en place dont les actions ont été rejetées par le peuple le 6 mars dernier.
Les vents sont favorables à Talon. Il y a la mytho de la pugnacité de l'homme. Mais pas que ça. Jusqu'au bout, Boni Yahi l'aura aidé par la victimisation en l'occurrence. Au second tour, nombre de Béninois ne voteront pas pour Talon. Ils voteront contre Boni Yahi et Lionel Zissou, ils voteront contre la continuité.
La Cour constitutionnelle se prononcera certainement cette semaine pour fixer tout le monde. Mais en attendant, les grandes tendances données par la Sénat continuent de faire couler assez d'encre et de salive. Surtout avec cette décision prise par le gouvernement d'enquêter sur un supposé achat de conscience qui aura eu lieu la veille et le jour du scrutin via les réseaux mobiles. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Au Nigeria, fin de la grève dans le secteur pétrolier, les syndicats de la compagnie nationale pétrolière ont annoncé aujourd'hui que les grévistes avaient repris le travail interrompu depuis hier. Ces syndicats disent avoir reçu des autorités nigérianes l'assurance que le plan de restructuration du secteur pétrolier ne serait pas assorti de licenciement de personnel. Les relations entre le Nigeria et l'Afrique du Sud maintenant. Le président sud-africain Jacob Zuma a mené une mission délicate cette semaine lors de sa visite officielle au Nigeria, renouer les liens considérablement dégradés ces dernières années entre les deux plus grandes puissances économiques du continent africain. Michel Joseph.
La compétition économique est le principal ressort de la tension des relations entre les deux géants africains. Et l'arrivée de l'inflexible Muhammadu Buhari à la tête de l'État d'Afrique de l'Ouest en mai dernier ne semble pas vraiment avoir changé la donne. Devenue depuis avril 2014 la première puissance économique du continent grâce à une nouvelle méthode de calcul de son PIB, le Nigeria est davantage un concurrent qu'un partenaire pour l'Afrique du Sud. 120 entreprises sud-africaines sont implantées au Nigeria, qui n'est que le 7e partenaire économique de Pretoria sur le continent. La visite de Jacob Zuma s'est donc inscrite dans une volonté de changement pour les deux pays qui vivent une période économique difficile. L'Afrique du Sud est minée par le ralentissement de la croissance chinoise et la chute du cours des matières premières, tandis que le Nigeria souffre de la baisse du cours du pétrole, dont il est le premier producteur africain. À l'issue de sa visite, le président Zuma a ainsi annoncé que plus de 30 accords bilatéraux avaient été signés.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Conflit en Somalie, démenti du Pentagone, les troupes terrestres américaines n'ont pas pris part au raid de mercredi à l'aube visant des militants d'Al-Shabaab en Somalie. Le Pentagone précise maintenant que seuls des hélicoptères américains y ont participé. Selon le chef de la police de la région somalienne du Bachabel, Abdi Ibrahim Chamo, les forces impliquées dans le raid ont tué 15 militants et arrêté 6 autres. En Arabie Saoudite, le roi Salman et de nombreux chefs d'État étrangers, notamment d'Afrique, ont assisté aujourd'hui à la fin des manœuvres militaires Tonnerre du Nord, les plus importantes jamais organisées dans le royaume wahhabite. Des unités de 20 pays arabes et musulmans y ont participé, non loin de la garnison de Afr al-Batin dans le nord-ouest saoudien, près des frontières de l'Irak et du Koweït. Objectif de l'exercice qui a duré 12 jours, coordonner les efforts des participants dans la lutte contre le terrorisme. Parmi les leaders africains présents, l'Égyptien Abdel Fattah al-Sissi, le Soudanais Omar al-Bashir, le Sénégalais Macky Sall, le Mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, le Tchadien Idriss Déby Itno et le Djiboutien Omar Guelleh. La lutte contre le terrorisme en Syrie, Omar le Tchétchène, le djihadiste célèbre pour sa barbe rousse et ses exploits militaires sur le front syrien, n'a pas été tué par une frappe américaine, comme l'avait annoncé le Pentagone mardi. Il a été seulement grièvement blessé lors du raid aérien contre son convoi, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui couvre en détail le conflit en Syrie. L'Observatoire dit baser cette information sur des sources au sein de l'État islamique, dont Omar le Tchétchène est un chef de guerre très expérimenté. Le djihadiste tchétchène de Géorgie, dont le vrai nom est Orkan Tayumourazovitch Batirashvili, serait maintenant soigné par un djihadiste médecin d'origine européenne. Rappelons que la tête d'Omar le Tchétchène avait été mise à prix par Washington pour 5 millions de dollars. Ce n'est pas la première fois qu'Omar le Tchétchène est donné pour mort et refait finalement surface. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.